Voilà. Donc, nous sommes le dimanche 10, hein, 10 décembre 2017. Et j'ai choisi Samson, dans cette période troublée, est considéré comme un juge, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a apporté, de la part de Dieu, une réponse au problème, d'un peuple qui n'obéit plus à Dieu, d'un peuple qui subit une rétribution, qui subit toutes sortes d'ennuis, de difficultés avec les peuples environnants. Et Samson a certainement une vocation, une très belle vocation. On va voir ce qu'il va en faire, comment Dieu intervient, se sert de lui malgré tout, malgré ses désobéissances. Il a été appelé, c'est l'élection qui compte, c'est le choix de Dieu qui compte, qui reste premier. Et la deuxième chose, nous verrons dans le Nouveau Testament ce qu'il en est quand quelqu'un est appelé. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel.
C'est où ? Juge
13.
L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Donc, généralement, vous voyez des cas comme ça avec Jean-Baptiste, hein, et d'autres cas, Samuel, de stérilité, voulu par Dieu pour que la naissance de la personne soit désignée comme importante et délibérément apportée par Dieu. Toute naissance est apportée par Dieu, mais ce qu'il y a, c'est que il faudrait qu'on en prenne conscience. La Bible, en général, nous veut éveiller notre conscience à ce phénomène. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur. » Donc vous voyez ici, c'est déjà important, là, une femme qui va porter dans son ventre un enfant et on pourrait dire aujourd'hui, arrêtez de boire, arrêtez d'aller à la discothèque, de prendre du cannabis, de fumer, arrêtez de manger n'importe quoi que vous achetez ou que vous n'achetez pas. Et comme un monsieur qui était gynécologue, je ne partage pas toutes les opinions, toutes les valeurs, parce qu'il pratiquait généralement l'avortement, je lui ai posé la question, un jour d'une visite médicale de mon épouse, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont anormaux dans le ventre de leur mère? Il m'avait dit non, pas du tout. S'il y a des anomalies, ça vient du comportement des êtres humains. Voilà. Un homme qui, d'une manière comme de l'autre, ne partageait pas des opinions chrétiennes, mais qui me dit ça. Ça veut dire qu'il est rare, qu'un enfant soit programmé anormal et difforme. C'est quelque chose, bien sûr, qui peut arriver maintenant à cause de la pollution, de toutes sortes de choses. Il y a des modifications génétiques qui sont en cours, qui sont très nombreuses. Les biogénéticiens sont au courant de tout ça, parce qu'on est en train de détruire le cadre, la sécurité qui entoure la gestation d'un enfant, par toutes sortes d'ondes, toutes sortes de rayonnements, même cosmiques, qui nous arrivent, et dont on était protégé avant. Mais maintenant, voilà, on voit l'attention de Dieu qui donne des règles à cette femme, et elle va les suivre. Tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Bon, dans le livre des juges, il y en a d'autres, il y a même des femmes. Mais ce qu'il y a, il est un naziréen, c'est-à-dire un nazir, un consacré à Dieu. Et vous savez que Jean-Baptiste, sous conte fées, est aussi représenté avec des peaux d'animaux, la grande barque, etc., qu'il était consacré de cette manière-là, qu'il vivait dans le désert. Et puis quand il affrontait la société, qu'il allait voir les gens, ben, il avait le verbe clair, tranchant, et il ne tenait pas compte d'une peur envers les hommes, d'une peur d'une répression, il voulait dire ce que Dieu lui demandait de dire. C'est clair que la vocation de Samson, à mon avis, au départ, était comme ça. Mais on va voir que Samson va glisser sur des peaux de banane, ou sur des savonnettes, ce qui peut arriver, et ça peut être un exemple pour nous, pour nous faire réfléchir. Verset 6, la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable, je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Alors voilà, le papa va bien sûr intervenir. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? C'est quand même un homme sérieux. Hein? Il cherche la direction vraiment de l'Éternel. Il prend au sérieux les promesses de Dieu et il prend en charge ce qu'il peut prendre en charge. Hein? L'ange éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de vigne. Et elle ne boira ni vin ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Signe d'accueil, d'hospitalité, qui est très important dans cette société. Et parfois on retenait la personne jusqu'à 3 jours. Hein. Et la personne, en principe, ne refusait pas. Bon, ici, je ne pense pas que ça va durer 3 jours. L'ange éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Donc voilà la fonction, l'attitude, si vous voulez, fonctionnelle, la mission de cet ange, c'est de tourner vers ce papa et la maman et l'enfant directement vers Dieu. Faire l'holocauste. Et si vous voulez savoir ce que c'est que les holocaustes, vous allez lire dans différents livres de Moïse, au début de la Bible, hein, Lévitique, Nombre, etc. Vous verrez qu'il y a beaucoup de textes sur les holocaustes. C'est une action de grâce ici dans ce cas-ci. Hein. Verset 17, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc, le nom ici qui est donné, je suis le merveilleux, c'est clairement une désignation extrêmement importante de Dieu. Il n'y a rien de bas, de dégradé, rien de souillé, il n'y a rien de... Vous voyez, il est le glorieux, si vous voulez, il est le merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Comme un peu pour Jacob, pour Moïse et tout ça, un rocher.
Abraham.
Pourquoi Abraham, pourquoi un rocher? C'est le symbole de Dieu. Un rocher qui n'est pas touché par le burin, qui n'est pas façonné. Hein? Et le rocher, bien sûr, avec Moïse, on voit dans 1 Corinthiens 10, verset 14, que le rocher qui suivait Moïse et Israël, c'était le Christ. Le rocher, dans l'Ancien Testament, est le signe de la présence de Christ. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Ouais, il y a de quoi, hein? Évidemment, ça ne devait pas arriver tous les jours, ni encore aujourd'hui. Donc, on voit réellement que cet envoyé, cet ange, est venu de là-haut. De là-haut, pour fonder une mission très importante dans cette famille. L'ange de l'Éternel n'apparaît plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Donc vous avez ici au verset 22 clairement l'expression que l'ange éternel et Dieu, c'est la même chose. Et quand vous allez dans Exode, au chapitre 2, 3, 4, vous voyez Moïse qui voit l'ange éternel, et puis il a vu Dieu. Dieu lui dit, Dieu lui répondit. Et quand il dit, mais je vais aller voir les Hébreux, ils vont jamais croire que j'ai vu Dieu, que Dieu était apparu. Mais tu te diras à Aaron de prendre le bâton, de le jeter, etc. Mets ta main dans ton sein, il a ressorti les Hébreux, et ben, remets-la, maintenant ressort tes scènes. Donc, il y a eu des signes pour montrer que l'ange éternel qui t'est apparu dans le buisson était, c'est Dieu. Ce que je dois vous dire, c'est quand même de la théologie très importante, de la théologie qui ne doit pas être rabotée, c'est que, autrement, on ne comprend plus la Bible, c'est que dans Jean, au chapitre 1, dans Jean chapitre 1, il y a clairement, dans le prologue de Jean, un verset qui dit que personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Donc, celui qui fait connaître Dieu, celui qui est l'image de Dieu, hein, Colossiens 1, 15, l'image de Dieu, celui qui, à certains moments, manifeste la divinité sur terre, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est le Christ. Ok ? Et c'est sûr qu'il faut faire attention, il faut avoir une théologie complète de la personne de Christ. Dans Jean 1, verset 18. J'avais prêché une fois pendant trois jours à Orval sur ce verset, et c'est à cette occasion que Marie-Hélène a basculé dans les mains du Seigneur. Mais vous voyez, par exemple, dans Jean 1, 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Imaginez ce que Jean dit là. Imaginez la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Imaginez le ressuscité. Donc, il est vraiment Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Le Fils est le resplendissement de la gloire du Père. Il est... l'empreinte de sa substance, donc de sa nature profonde. Et donc vous voyez que Dieu peut se manifester dans l'Ancien Testament, dans la deuxième personne de la Trinité, dans la personne de Christ. Je n'ai pas dit Jésus, hein. Le Christ apparaît dans un corps aux 33 ans, et il s'appelle Jésus, le Christ, Jésus-Christ. Je n'ai pas dit quand l'ange éternel apparaît à Moïse, ou à Manoac et à sa femme, que c'est Jésus. Ne venez pas me faire dire ce que j'ai. Il n'est pas encore incarné. Il manque de Marie. C'est le Christ. C'est le Sauveur. Alors, continuons. Au verset 22, il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Dans l'Ancien Testament, toute approche de Dieu, toute manifestation de Dieu est tellement redoutable. Avec le sentiment d'être un pécheur, d'être souillé et d'être condamné, que le pécheur mérite la mort, il va mourir. Et donc, je veux dire que moi, il m'arrive parfois dans des relations avec des personnes qui réellement n'ont pas de racines chrétiennes, ou les ont perdues complètement. Quand ils ont fait vraiment des choses graves, et ils souhaitent mourir, ou ils veulent se donner la mort, parce qu'ils ont le sentiment d'être quelqu'un de perdu, qui a fait des choses graves. Il y a des gens encore aujourd'hui qui ont ce sentiment qu'ils méritent de mourir. Et parfois, certains se suicident, d'autres attendent la mort, par un tournant, une voiture, une collision, etc. Il y a dans l'homme ce sentiment que l'irréparable envers Dieu existe et que c'est une séparation qui est éternelle. Et ils ne savent pas qu'il y a un salut, ils ne savent pas qu'il y a une réconciliation. Et qu'un rédempteur. Là, quand on est dans les relations avec les personnes, quand on écoute, on voit les choses, il faut véritablement voir parfois le danger que les gens courent. Le danger qu'ils ont, qu'ils sont en train de courir, parce qu'ils ont une profonde ignorance sur la miséricorde divine, sur le salut proposé en Jésus-Christ. Alors, dans notre société, on comble un petit peu tout ce cette misère spirituelle qui existe, qui est réellement prenante, avec l'usage des psychologues, des psychiatres, qui disent c'est pas grave, qui relativisent, etc., et d'autre part, les médicaments. Et si on ne prend pas ni psychiatre ni médicaments, ben, on peut prendre soi-même la drogue, ou on use un médicament de manière illégitime, on abuse de médicaments. On est un peu dans le cirage, si vous voulez. Ou on boit, ou on mange, enfin, on se tape des voyages, ou on se tape le sexe, à tout bout de champ. Pourquoi ? Parce qu'on veut enfouir cet immense sentiment de mort intérieure, de vide et de condamnation qui est sur soi. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important quand on rencontre les âmes humaines, de savoir qu'elles ont, derrière des apparences parfois paisibles ou suffisantes, une grande détresse, un grand vide, et qu'elles ont besoin du Sauveur. Et c'est pas toujours en assénant, poum, un verset, ou en disant quelque chose, il faut faire très attention, il faut écouter, il faut prier beaucoup, et puis il faut demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut dire, ou qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et prendre le temps de refaire des contacts, des rencontres, pour amener la personne à une autre vie, la vie nouvelle en Jésus. Donc ici, au verset 23, sa femme lui répondit à Manoac, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Vous voyez ici, vous avez une autre réalité, la femme comprend qu'ils auraient pu mourir, ils étaient en instance d'être condamnables et condamnés, hein, qu'ils étaient coupables par nature, mais elle s'est dit, nous n'avons pas eu le châtiment, nous n'avons pas eu la sanction. Donc, Dieu n'a pas porté atteinte à notre vie, il a autre chose pour nous. Hein? Et donc, il y a une espérance, une certitude d'un pardon, d'une porte ouverte de la part de Dieu pour cette femme et qu'elle tente à témoigner à son mari. C'est extrêmement important dans le dialogue des couples ou entre amis. Ou quand on est fiancé, quand on se fréquente, avant de se marier, quand on prend le temps de se fréquenter, parce que beaucoup maintenant, cric crac boum, et on ne prend plus le temps de rien du tout, on paye cher après. Hein. Mais ce qu'il y a, il y a des dialogues à avoir, des dialogues pour savoir comment chacun de nous, chacun des deux, se positionne devant la mort, devant la culpabilité, devant la rédemption. Vous voyez ? C'est extrêmement important, ce sont des dialogues de base, qui font qu'on a le même radar pour voir venir l'avenir, voir les obstacles, et on a devant Dieu le même regard. C'est grave aujourd'hui d'avoir engendré un instinct de libido tellement grand que les rencontres entre hommes et femmes, adolescents, adolescentes, etc., se basent sur uniquement le plaisir sexuel. Et il n'y a plus ce dialogue en profondeur sur des dimensions intérieures, des dimensions spirituelles. Alors, bien c'est un équipage qui va sombrer. Hein. C'est un équipage qui n'est pas capable de conduire le bateau. Imaginez bien que des couples pareils, c'est déjà la catastrophe avant de commencer. Donc on a une grande... En général, moi, quand quelqu'un veut se marier, je le vois entre 30, 40, parfois 50 fois. Ça m'est déjà arrivé de dire, je ne vous marierai pas. Ah oui, c'est comme ça. Moi, je prends ma responsabilité, je dis, non, ça n'ira pas. Je ne suis pas le fonctionnaire des marionnettes. Je voudrais amener les gens à se remettre en question, à être honnêtes et à réussir leur vie. Ce n'est pas en les endormant qu'on les amène à réussir leur vie. C'est possible de marier quelqu'un, mais il faut avoir établi les bases. Les bases, c'est la fidélité, c'est la bonté, c'est la vérité, c'est le dialogue, c'est la rencontre entre les deux personnes qui va devoir se faire toute la vie. La rencontre entre cet homme et cette femme. Et la rencontre avec Dieu aussi. Alors, c'est une femme de rencontre, c'est une femme qui a bien compris l'attitude de Dieu, la perche de salut qui est offerte, et elle enfanta, verset 24, « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à macaner Dan, entre Tzoréa et Eshtaol. » Bon, l'agiter, on pourrait dire, oh, il devient charismatique, d'un côté, je ne sais pas. Il a des visions, il a des transes, aucune idée. Tout simplement, simplement peut-être le remettre en question, le faire progresser. Je n'ai pas voulu étudier ce mot. Ça mériterait de prendre des textes, d'aller chercher dans les écrits rabbiniques, d'aller voir un petit peu dans les commentaires et dans l'hébreu. Sans doute que ça, il y a peut-être d'autres sens que je ne vous ai pas donné aujourd'hui. Mais toujours est-il que Dieu intervient. C'est l'Esprit de l'Éternel. Chapitre 14. Au revoir, mon petit cœur. Samson descendit à Timna, il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Donc, nous voyons là, nous avons une réalité extrêmement lourde. C'est que les Philistins, c'est une race de gens tout à fait différente des Hébreux et qui n'ont pas le même Dieu. Les Philistins sont les ennemis des Juifs et les Philistins font des sacrifices humains et n'ont pas des défauts, évidemment. Mais toujours est-il qu'ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël, le Dieu de la révélation, des prophètes. Alors que les parents aiment Dieu et ont vu une révélation de l'ange éternel, voilà que le fils qui est appelé à servir Dieu s'amourage d'une femme qui aime le diable. Même peut-être qu'elle ne le sait pas. Hein? Cette femme ne sait peut-être pas qu'elle est en communication avec les ténèbres. Mais, hein? Mais bon, quel âge a-t-elle? La parole de Dieu ne nous le dit pas. Alors, il a des pulsions, des fantasmes, il est touché. Est-ce que c'est les phéromones du nez? Ils ont touché son nez, etc. Est-ce que, bon, et tout. Toujours est-il que cet homme, qui devrait être fort et servir Dieu, et servir la destinée d'Israël, qui est en grande difficulté, il est travaillé par Dieu, et en même temps, il est travaillé par la convoitise charnelle, sexuelle, amoureuse peut-être, hein, mais on confond souvent la passion avec l'amour. L'amour est ravageur. L'amour mobilise tous les sens, toute la physiologie, déclenche des glandes, etc., qui se mettent en route, déclenche les sentiments, et les passions ne permettent plus de recul. Hein. Moi, j'ai toujours voulu contrôler mes passions, toujours. C'est quelque chose de redoutable, c'est très redoutable. Très redoutable, les passions. Et quand elles prennent, elles sont comme des tornades. Et on perd toute visibilité au niveau de l'esprit, de la raison. Il faut faire attention, la maîtrise de soi est un fruit du Saint-Esprit. Hein? Et l'obéissance à Dieu, bien sûr, demande à prendre du recul vis-à-vis des passions, ne pas se laisser amorcer par des passions, accroché par des passions, comme le poisson est accroché par l'hameçon. Hein? Alors, il a quand même de l'amour pour son père et sa mère, il va se confier à eux, donc c'est le fils à papa, hein? C'est une bonne petite famille, et tout d'un coup, là, le problème qui arrive dans une famille qui allait bien, tout d'un coup, zoom, se pointe à l'horizon un gros problème. Le papa et la mère disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères, donc de tous les cousins, etc., dans le clan et dans tout notre peuple, même en dehors du clan, dans le peuple hébreu, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Donc, il n'y a pas de voilà, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. Il faut laisser le feu s'arrêter. Alors, Samson résiste à son père, à sa mère, prends-la pour moi car elle me plaît. Donc, va parler avec les parents, va faire des transactions et va offrir une dot, ou moi j'offre une dot, et puis j'aurai la fille. Donc il est déjà entêté. Nous prenons dans Jacques, il y a ici, là, un corridor, des trucs pour mettre dans le cul.
Ici, là, parce qu'il n'y a pas d'air dedans.
Oh, non, il ne s'éteint pas comme ça. Jacques. Jacques. Regardez bien. Dans Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, nous voyons ici, d'après ce que le Nouveau Testament nous dit, que Samson n'a pas de sagesse. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est sur lui. Sans doute que l'Esprit de Dieu conteste les pensées, le caractère superficiel de Samson. Que l'Esprit Saint lui fait des reproches et qu'il est tourmenté par quelque chose que Dieu lui montre et qu'il n'accepte pas. Moi, je pense que c'est ça quand il est ajouté par l'Esprit de Dieu à la fin du chapitre 1. Combien de fois les chrétiens sont comme ça? Combien de fois des gens qui se disent en Christ sont comme ça? C'est normal que ça arrive. Mais moi, ce qui n'est pas normal, c'est de donner raison au péché. Et si on se casse la figure une fois ou deux, de continuer à donner raison. Ça, c'est différent. On peut en souffrir d'un péché, on peut avoir honte, on peut tellement voir que, un peu d'affection, je voulais un peu d'affection, mais quand je vois la quantité d'afflictions qui nous sont arrivées, non merci, mais ça, c'est encore une fausse sagesse, c'est une sagesse calculée, j'ai perdu plus que ce que j'ai gagné, mais la vraie sagesse, c'est de dire, mais Seigneur, mon Dieu, tu ne veux pas ça pour moi. Moi, je veux être à toi, je veux vivre comme tu me le demandes. Je sais que c'est en toi que j'ai l'affection et l'amour. En toi que j'ai la gloire et l'héritage, comme aujourd'hui Vincent l'a expliqué. Et donc, hors de toi, Seigneur, il n'y a point d'héritage, il n'y a que la tribulation, l'angoisse sur l'âme du pécheur, comme dit Paul dans Romains chapitre 2. Donc ici, dans Jacques, si quelqu'un, chapitre 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Ben, on voit que Samson ne la demande pas, il ne va pas demander avec foi quelque chose qui lui manque. Il reste dans l'agitation et dans la contradiction, le déchirement entre ce que Dieu veut et ce que lui il veut. Et il va finir par dire, notre Père qui es aux cieux, que ma volonté soit faite. Aide-moi à faire ma volonté. Or, Jésus nous a appris notre Père en disant, que ta volonté soit faite. Et combien de fois nous avons des attitudes narcissiques, égocentriques, sous des dehors, même chrétiens ou autres religions. Ça ne s'appelle pas la foi, ça s'appelle la duplicité. C'est peut-être dur, ce que je dis, mais enfin, voilà. Et on voit dans le verset 6, Jacques 1, 6, que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Donc c'est ça. Les angoisses, les passions, les tribulations, ça y est, la cacophonie intérieure, les tourments. Verset 7, que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà notre Samson dans sa réalité morale et spirituelle au début de sa vie d'adulte. N'est-ce pas la réalité de la vie de les citoyens humains sur cette terre, surtout avec un programme païen tel qu'on le fait pour nos jeunes, surtout avec cette éradication de la parole de Dieu, la disparition des églises ou des prédications fondées dans la Bible. N'est-ce pas cela qui est dans le cœur des jeunes? C'est un mal social, mais un mal humain grave qu'a vécu Samson et que nous voyons à des millions d'exemplaires aujourd'hui, et dont la réclame, la louange est faite par Internet, par la télévision, la radio. Donc, il y a peu de jours, il y a 2-3 jours, un grand chanteur est décédé, et je voyais un homme éminent qui disait, c'est une vie réussie, magnifique. On souhaiterait tous une vie comme ça. Ben oui. Sans doute qu'il y a des gens qui ont dit la même chose pour Samson. Craig Badabou. Alors, verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, etc. Mais bon, il était riche d'une certaine manière, il était hyper costaud et c'était beau, il était beau. Donc, il se glorifiait de tout ça. Mais il ne se rendait pas compte qu'il courait de graves dangers. Verset 10, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. S'il avait accepté l'avis des parents, il était humilié. Il pleurait, pleurnichait tout un temps, parce que la fille, ben, c'est un autre qui l'avait, et puis c'était fini. Hein? Il pleurnichait, et puis après, bon, il faisait une déprime un certain temps, mais après, quoi? Ben, il revenait dans, grâce à son humiliation, il revenait au soleil, à une vraie vie intérieure. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu, ainsi le riche se flétrira dans son entreprise. Samson est le cas de l'homme riche, béni par Dieu, comme Adam et Ève étaient riches, bénis, bénis, bénis. Et puis, crac, parce qu'on s'écoute soi-même, parce qu'on laisse en nous amorcer son jeu, les passions du jeu, voilà. Alors au verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc il faut de l'amour pour Dieu, hein, pour pouvoir l'aimer plus que soi-même, plus que nos passions. Verset 13, alors c'est un principe, je dirais éducatif et moral, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Il ne faut pas se débiner et dire « Oh, j'ai été fait comme ça, c'est normal, c'est la nature, c'est... » Et puis si Dieu existe, si ça existe, c'est qu'il l'a bien voulu. Oh, moi, je suis tombé sur des lascars dans ma vie, des gens, je me suis confronté à des... tout ça, hein. Ouf. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle l'a conçue, c'est-à-dire comme s'il y avait un enfant qui était fécondé, hein, un ovule fécondé par un spermatozoïde dans l'être humain. Eh bien, quand la convoitise lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché étant consommé, produit la mort. Nous sommes en nous quelque part comme une matrice dans laquelle il y a la convoitise et puis il vient l'objet de la convoitise, et si nous l'alimentons, il va en sortir, il y aura une gestation de la mort. Écoutez, il faut lire ça, il faut méditer tout ça. Et c'est la réalité. Je suis loin d'être pessimiste, hein, vous savez. Parce que la grâce existe. Regardez, versets 16 et 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Donc, les amis, pour Salomon, qui ne veut plus entendre ses parents, hein?
Samson.
Ben, Salomon, c'est elle-même. Samson qui ne veut plus entendre ses parents, qui n'écoute que sa convoitise, il va trouver la mort. Effectivement, si vous lisez la vie de Samson, ça va finir dans un grand carnage. Alors, Samson, malgré tout, a été appelé par Dieu, appelé à le servir, appelé à défendre la cause d'un Israël opprimé, minorisé, mal armé, continuellement évincé, non pas seulement par les Philistins, évincé par son propre péché aussi. Et la colère de Dieu. Alors, il y a des événements qui vont arriver, qui vont être assez exceptionnels, hein, c'est pas nous qui les avons, mais c'est comme ça. Alors, il vient de dire au verset 3, je suis dans Juges 14, verset 3, Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Bon, voilà. T'as beau faire et beau dire, je rentrerai à la maison avec elle. Et puis, de toute manière, je dormirai là avec elle. Et tu t'y habitueras, et puis tu diras amen, et puis c'est tout. Ben voilà, c'est comme aujourd'hui. Pif, paf, boum, partout. Verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Ils aiment bien leur fils, vous savez. Malgré tout ça, des discussions, à mon avis, orageuses. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Ça commence. Le péché dans le cœur et l'ennemi se présente. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Donc, il a une puissance en lui extrêmement grande qui pourrait servir à la cause de Dieu. Mais il est choisi, un peu comme Saül a été choisi à un moment donné par Samuel, à la demande du peuple. Et puis Saül ne dit rien et qu'il a été oint par Samuel. Il ne dit pas que Dieu l'a choisi. Il se cache, il se défile. Pourquoi ? Parce que la fonction que Dieu avait choisie pour Saül devait être sainte. Mais Saül n'a pas le désir d'être saint. Il aime simplement être costaud et fort et faire ce qui lui plaît. Donc ici, c'est un peu la même chose. Voilà que Samson est béni dans sa force. Il a des dispositions à défendre son peuple et à le diriger. Et puis, tout compte fait, il a l'écoute de ses pulsions, mais aussi de ses secrets, de ses cachotteries. Il ne va rien dire aux parents. Il va commencer une vie parallèle à celle qu'il a reçue de l'homme et la femme de Dieu, que sont son père et sa mère. Verset 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Donc, la prendre, c'est pas seulement la prendre par la main. Bon, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Bon, vous savez qu'en archéologie, on a trouvé des sites importants en Israël, dans des vallées, où il y avait d'énormes ruchers. Il y avait énormément, quand on dit le pays du lait et du miel, et en Israël, on a trouvé des sites où il y avait d'énormes ruchers, il y avait évidemment une grande prospérité, une bénédiction de Dieu pour les Hébreux. Et vous savez que bien où il y a de la végétation, il faut des abeilles pour la fécondation. Et il y a aussi du miel, forcément. Hein? Et donc, quand l'animal est mangé par les vers, il reste la peau, il reste les os, la carcasse, mais c'est un refuge pour un essaim qui s'est sauvé des ruches. Sauvé, l'essaim arrive là, la raie de mer se met là, ben, toutes les autres sont là, et puis, hop, on en fait son abri du soleil, hein, parce que la peau du lion est épaisse, les os sont solides. Voilà. Et lui, ben, il trouve le miel, il va le reporter à papa et à maman. Et il ne dit rien. C'est un petit peu comme si il disait à la fille, tu vois, c'est moi qui ai tué ce lion-là, regarde le bon miel. Mais, quelque part, c'est son autosatisfaction. Il ne communique plus vraiment avec ses parents. Vous voyez, l'autosatisfaction et le narcissisme, la vie centrée sur soi, finit par défavoriser la vraie communication avec les proches. La vraie clarté, la vraie transparence.
Peut-être que par humilité aussi.
S'il vous plaît.
C'était par humilité qu'il n'a pas dit. Non, moi je pense qu'il n'a pas dit parce que le corps du lion, c'est ça. Avec les parents, bah, ils n'auraient pas accepté de manger la nourriture qui est dans le corps d'un animal.
Oui, parce que c'est des juifs qui est le rite du pur et de l'impur. Mmh. Effectivement. Le père, lui, a déjà transgressé quelque part des règles. Verset 10, chapitre 14, verset 10, le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Donc le papa descend chez la Cananéenne, ou la Philistine. Pourquoi? Mais parce que, tout compte fait, ben, il aime tellement son fils, ben, il va falloir arranger un mariage. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Ok, propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Pensez au lion, hein, et au miel. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Oui, la femme, donc, c'est fait. Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. » Alors, nous voyons ici, tout d'un coup, vous voyez ici, l'animosité, l'esprit de querelle, vous voyez l'engrenage dans lequel Samson s'est mis. En faisant le malin, en faisant le monsieur je, il est tombé hors des sentiers bénis par Dieu, et il tombe là dans une situation où les méchants veulent prendre autorité. Où les méchants sont dangereux. Alors, bien sûr, il est chez les Philistins, là. Verset 15, le 7e jour, il dit à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. » Donc, vous voyez à quel point ils sont féroces. On ne fait pas de quartier. Nous ne voulons jamais perdre. Nous sommes des gagnants. Regardez bien ce qui se prépare en Israël pour le moment. C'est cet esprit-là. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Donc la rancœur, la colère sont là, et de manière extrêmement forte. Pourquoi? Parce que tout simplement, si Samson n'avait pas allumé, jouer au pari, faire un pari, provoquer des gens mauvais, il n'aurait pas récolté ça. C'est un manque de sagesse de nouveau. Naturellement, ça ne veut pas dire que Dieu va laisser tomber Samson. Heureusement que Dieu est meilleur que Samson et que nous. La femme de Samson pleurait auprès de lui. Pense, ça y est, la vie de couple commence déjà par des misères.
Pendant les 7 jours qu'elle a pleuré, tu t'imagines,
Et disait, tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Ben oui. C'était sûrement tous les cousins, les tontons et les tatas, ils sont tous vexés, et maintenant il les a tous sur le dos. Hein? Qu'est-ce qui était venu nous amener cet abruti de juif là, hein, qui nous met la pagaille chez nous, qui nous humilie, hein, qui est en train de nous couvrir de honte. On paraît pour des bêtards, c'est de ta faute. Tu n'as pas besoin de te marier avec lui. Et lui, il répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Pan.
Ah,
ah non, voilà monsieur macho. Le macho, sur sa bonne femme, c'était le grand amour, la grande passion, et quand on regarde bien, c'est le moi. C'est pas de l'amour, la passion. C'est simplement un mouvement du moi, la passion. Si on enseignait tout ça dans les écoles, dès la maternelle, on réussirait peut-être plus les couples, et les couples réussiraient plus l'éducation de leurs enfants. Vous voyez bien que la parole de Dieu a quelque chose à apporter aujourd'hui. Verset 17. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. La pauvre. Il est fort, il est beau, il est costaud, mais il me fait pleurer.
Mais ça, c'était du bois. Ça, c'était de la lune de miel. Hein?
C'est un gros niche bourru goulu. C'est quelqu'un qui n'a pas de sentiment pour moi. Je me suis laissé prendre, je me suis laissé séduire. Mais c'est pas quelqu'un qui a du vrai sentiment pour moi. Parce qu'il aurait été plus délicat, il n'aurait pas amené des conflits comme ça. Vous voyez? Alors, je vais vous dire, j'ai écouté beaucoup de gens dans les différents couples. Il y a des gens, beaucoup de gens, quand ils viennent me confier leurs affaires de couple, après 2, 3 ans, 10 ans, 15 ans de mariage, ou même 3 jours de mariage, hein, certains, c'est déjà, la soupe est déjà gâchée. Eh bien, pratiquement, ils confondent être sensible et être sentimental. Parce qu'ils sont sensibles, ils croient qu'ils sont sentimentaux. Être sensible, c'est être réceptif à toutes sortes de choses. Et c'est réagir à des choses qui nous entourent. C'est une capacité. Mais être sentimental, c'est autre chose. C'est être capable de se donner à l'autre. Et ça n'a rien à voir avec la sensibilité. Moi, je préfère encore quelqu'un qui n'est pas sensible, et qui est droit, et qui sait se donner à l'autre. Qui respecte l'autre. La sensiblerie n'a rien à voir avec la vérité du cœur. Dans l'éducation d'aujourd'hui, dans tous les films, dans tout ce qu'on fait, on provoque et on délibère sur la sensibilité et jamais sur la vérité. Et le sentiment, on le sépare en deux, senti, espace, ment. Le sentiment. La sensibilité n'est pas le vrai amour. Alors, regardez bien, nous avons quand même fait un gros nichebourru goulu. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le septième jour, il lui expliqua. Ben oui, il en avait marre, simplement pour avoir la paix. Hein, car elle le tourmentait. Vous avez vu? Ben oui. Hein? Elle remplissait tous les casques de pompiers de ses pleurs, il a bien fallu qu'il craque pour avoir la paix. Et puis tout le monde était sur son dos, donc. Elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le septième jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Il leur dit, si vous n'aviez pas le rouvré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Il est en train, d'une manière triviale, de rude, grotesque, désigner sa femme comme une génisse. Et il est en train de simplement manifester sa rancœur, sa colère sur sa femme. Ben oui, au bout de 7 jours, regardez où en est l'amour, si on appelle ça de l'amour. La passion ne conduit pas forcément à l'amour. Et tout ce que vous voyez, surtout en France, dans la culture française, c'est la glorification de la passion, la glorification de la sensiblerie, de la sensibilité. Et c'est le rabaissement de la vérité. Ce sont des erreurs graves de discernement au niveau moral et spirituel. Et ça gagne toute l'Europe. C'est comme ça qu'on est en train de laminer l'éducation des enfants, de les emmener au plus grand échec. Il faudra bientôt des psychiatres, des psychologues à tous les coins de rue. Et de toute façon, ils sont aussi malades que leurs malades. Hein? Puisqu'ils sont éduqués de la même façon. Alors, continuons. Chapitre 14, verset 18. Les gens de la ville dirent à Samson, avant de coucher, quoi de plus doux. Donc, ils sont arrivés à leur fin. Ils ont vaincu Samson, qui normalement, s'il s'était bien conduit, aurait, par sa droiture, sa prestance, par l'appel de Dieu sur lui, peut-être gagné l'estime de ces personnes-là, et créer un lien avec les Philistins, un lien où la parole de Dieu d'Israël pouvait gagner les cœurs. Mais non, il n'a rien gagné, il a perdu. Il a perdu, il n'a pas fait ce que Dieu voulait, son ministère, il n'a pas rempli. Les amis, nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, croyants en Jésus-Christ, nous pouvons souvent être en train de saboter le travail de Dieu et pas remplir notre ministère. Il faut faire attention. Nous devons construire nos vies sur la vérité, pas sur la sensibilité, pas sur la sensiblerie, pas sur les impulsions passionnelles que nous avons. Il faut un chemin droit dans notre cœur. Et Jésus nous l'a déjà montré, il faut être lavé par son sang, purifié de toutes nos ordures intérieures. Il faut tirer la vieille pouille, il faut se dépouiller pour revêtir Christ. Il faut un choix radical et une grâce radicale. Paul dit que celui qui est chrétien, celui qui est né en Christ, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. C'est pour vous dire un petit peu de manière très concrète ce que Dieu attend pour nous aujourd'hui. C'est pas simple d'être chrétien. Je sais très bien que c'est bien plus facile. Des fois j'ai déjà dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Pourquoi mieux fait de vivre comme les autres? C'est plus marrant. Enfin, c'est plus marrant au début. À la fin, c'est pas marrant du tout parce qu'il se casse sous sa figure. Mais en attendant, moi, c'est pas si marrant que ça, parce qu'il faut dire non à beaucoup de choses et se surveiller, se combattre soi-même. Mais à la fin, plus j'avance, moi, plus je suis content de ma vie et je vois les autres, ils tirent une drôle de tête. S'ils ne sont déjà pas morts, dans la tristesse et désabusé. Donc ici, nous voyons un peuple, le peuple des Philistins, qui aurait pu rencontrer un homme digne, un homme fort, mais ne provoquant pas les esprits faibles, ne provoquant pas les passions, ayant de la retenue et n'a pas. Pour nous, attention à nous, Samson est quand même quelqu'un d'important pour nous. Nous continuerons dimanche prochain l'étude de Samson. Vous allez voir, on ne va pas s'ennuyer.
C'est le culte de Noël, dimanche prochain.
C'est le culte de Noël.
Bon, on va faire Samson.
Donc on ne parlera pas de Samson. On ne parlera pas de Dalila. Dalila, elle est très mignonne, elle est très belle, elle est très gentille. Mais elle est très rusée. Et pour finir, elle est très destructrice. Mais, les amis, on reviendra à ce sujet. Samson, c'est une occasion de réfléchir sur notre façon de nous conduire en Occident pour le moment. Que Dieu nous bénisse.